Grand merci à vous. À cette heure, je suis roi. Déclaration de Louis XIII à la suite de l'assassinat de Concino Concini le 24 avril 1617.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au cours des XVIe et XVIIe siècles, l'histoire politique de la France a été marquée à quelques reprises par la présence importante de personnalités italiennes. Je ne ferai que rappeler Catherine de Médicis et ses conseillers pendant les guerres de religion, également la régence de Marie de Médicis à la suite de l'assassinat d'Henri IV, ou, un peu plus tard, le rôle qu'a pu jouer le cardinal Giulio Mazzarini, principal ministre du jeune Louis XIV et de la régente Anne d'Autriche. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un personnage qui a joué un rôle important durant la régence de Marie de Médicis, à savoir Concino Concini. Celui-ci est toscan. Il est né à Florence en 1569. Il est le fils de Giambattista Concini, qui est un noble toscan. Il a été ambassadeur du Grand-Duché près de l'empereur Maximilien. Et son fils, Giambattista, a été le premier secrétaire du Grand-Duché de Toscane. Donc, Concino Concini fait partie de la bonne noblesse de Florence. Il va apparaître sur la scène française lorsque, en 1600, Marie de Médicis épouse Henri IV. Il fait partie de la suite de la reine Marie. Il l'a rencontrée et il a demandé en mariage Leonora Galigai, qui était une des proches de la reine. Au début, Henri IV se méfie du personnage que l'on présente volontiers comme prétentieux, arrogant, ambitieux. Et puis, progressivement, le roi Henri va s'habituer à Concini et va trouver en lui un agréable partenaire pour des moments de chasse et des parties de jeu de cartes. Il lui confie même quelques missions diplomatiques et va en faire le premier maître d'hôtel et premier écuyer du roi, ce qui en fait finalement un homme assez proche des arcanes du pouvoir. Mais il est vrai que Concino Concini a un caractère difficile. Son orgueil, sa volonté de dominer ne sont pas que des légendes. Et d'ailleurs, il est relativement impopulaire au sein du peuple de Paris, qui le côtoie assez régulièrement, et même au sein de la noblesse française. D'ailleurs, il y a un incident quelques jours avant l'assassinat d'Henri IV, le 4 mai 1610. Ce jour-là, effectivement, Concino Concini va au Parlement de Paris et entre au sein du Parlement avec le chapeau sur la tête. Eh bien, les parlementaires lui font vertement savoir que seul le roi peut entrer dans le Parlement la tête couverte d'un chapeau. Et il le chasse et le rudoie assez fermement. Donc, effectivement, au moment où Henri IV va être tué, Concino Concini est un proche de la reine et la régence qui s'ouvre va lui permettre peut-être d'envisager de monter les échelons du pouvoir. En effet, devenue régente, Marie de Médicis va favoriser Concini. Celui-ci va acheter le marquisat d'Ancre, il va devenir donc le maréchal d'Ancre quand il sera fait maréchal de France par la reine-mère. Il va également devenir premier gentilhomme de la chambre de la reine, surintendant de sa maison, gouverneur de Péronne et de Montdidier, et donc il touche les revenus de son gouvernorat, et, comme je l'indiquais tout à l'heure, il est élevé à la dignité de maréchal de France en 1613. Son influence politique grandit indéniablement. Il est même de plus en plus influent. Ainsi, en 1616, il obtient la disgrâce du chancelier Nicolas Brûlart de Sillery, qui était un opposant à sa personne. D'autre part, il est assez influent également pour faire nommer des hommes qu'il croit être à sa botte. Claude Barbin, Claude Mangot, et puis un évêque qui avait été nommé à Luçon, Richelieu. Inutile de vous dire qu'une fois au pouvoir, Richelieu sera bien aise de ne pas rappeler ce qu'il devait au début de son ascension politique à Concino Concini. Concino Concini est donc réellement au sommet de sa puissance en 1616-1617. Mais il va commettre toute une série d'erreurs politiques qui vont lui être fatales. D'abord, le jeune roi estime que Concino Concini ne fait pas assez attention à lui et il prend ombrage de l'influence qu'a l'Italien sur sa mère Marie. D'autre part, un des très proches du souverain, le duc de Luynes, qui est maître de la fauconnerie du roi, attise finalement la rancœur également du souverain. Le duc de Luynes signale au jeune Louis XIII, n'oublions pas qu'il est né en 1601, il est donc un jeune roi, que Concino Concini favorise ses proches, qu'il cherche finalement à accaparer véritablement le pouvoir et à mettre de côté le roi lui-même. Donc la question va se poser de la volonté de Louis XIII d'en finir un jour ou l'autre avec le puissant conseiller de la reine-mère. Louis XIII va donc effectuer ce que l'on peut appeler un coup de majesté, c'est-à-dire un acte violent, extrêmement rude, pour éliminer quelqu'un qui n'a pas compris où il devait rester à sa place. Arrêter Concini posait problème. En effet, il a quelques centaines d'hommes de main dans Paris qui le protègent et il peut compter sur quelques puissants appuis auprès de la reine-mère. Donc, il est décidé de faire un coup de majesté qui aboutisse à l'exécution de Concino Concini. Nous connaissons la relation de l'assassinat par la relation exacte de tout ce qui s'est passé à la mort du maréchal d'Ancre. Texte qui nous décrit par le menu les conditions de ce qu'on peut appeler une exécution de Concini. Nous sommes le 24 avril 1617. Concini va entrer au Louvre quand il est encerclé par les hommes du baron de Vitry, qui commande les gardes de Sa Majesté. Celui-ci va saisir le bras de Concini et lui dire « De par le roi, je vous arrête ». Il n'est pas évident que le maréchal d'Ancre ait voulu dégainer son épée, mais ce qui est évident par contre, c'est que Vitry décharge son pistolet sur Concini. Et ses fidèles, les gardes qui l'accompagnaient, font de même. Ce qui fait que Concino Concini est atteint au visage et à la gorge. Quand il s'effondre, les gardes l'achèvent à coups d'épée. C'est à ce moment-là, quand le roi apprend que le coup de majesté a marché, c'est-à-dire que Concini est mort, que le jeune souverain a cette formule « Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi ». Il est évident que la mort de Concini va favoriser le pouvoir de Luynes, qui pendant un peu plus de 3 ans va être le favori de Louis XIII et va gouverner au nom du souverain. Mais reste à savoir également ce que va devenir le corps de Concini. Dans un premier temps, Concini a été discrètement inhumé dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois en face d'une des entrées du Louvre. Mais la haine du peuple de Paris est telle que on va déterrer le corps. Il va être traîné dans les rues de Paris, lapidé, bâtonné. Il est pendu par les pieds à une potence du côté du Pont-Neuf. Puis, le corps est dépecé et ses restes brûlés. Quant à sa femme, à qui on reproche aussi une influence auprès de la reine-mère, la galigaille, comme l'on disait, est accusée de sorcellerie et elle est exécutée en place de Grève le 8 juillet 1617 par le feu. Leurs biens, notamment le château de Lésigny et l'hôtel parisien de la rue de Tournon, sont confisqués et attribués, devinez à qui, au duc de Luynes. Celui-ci va effectivement dominer la vie politique dans les années qui suivent l'assassinat de Concino Concini. Mais en fait, l'homme qui va, après avoir été un moment disgracié, mais qui va finalement rafler la mise politique en 1624, c'est le cardinal de Richelieu, qui, après s'être fait oublier quelque peu pour avoir été un proche de Concini au début de la Régence, va devenir principal ministre et va dominer la vie politique du royaume jusqu'à son décès en 1642.